France Culture.
Bonsoir Svetlana Alexievitch. Merci de nous accueillir à Paris dans votre hôtel. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous attire dans la thématique de la guerre? C'est une forme de fascination ou bien aussi une forme de poésie parce que vous parvenez à trouver dans la guerre des moments de beauté, des moments peut-être où la littérature peut permettre, c'est pour reprendre votre expression, à être, j'allais dire, au-dessus de ce que l'homme est capable de produire.
Нет, в войне есть все, о чем мы говорили, но человек, к счастью, больше войны.
Donc, en effet, dans une guerre, il y a tout ce que vous avez mentionné. Mais ce que je voulais toujours montrer, c'est que nous, les humains, nous sommes plus grands que la guerre, effectivement. Il y a des choses dans lesquelles nous nous montrons plus grands et au-dessus de la guerre. C'est ce que j'ai toujours voulu montrer. Mais en même temps, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que nous n'arrivons pas à nous sortir de cette culture de la guerre aussi. Nous, les Russes ou les Soviétiques. Et aujourd'hui, encore, nous le voyons. J'appartiens à une génération des gens qui pensaient que la perestroïka de Gorbatchev, c'était quelque chose de romantique, que c'en était fini, que ça ne se reproduirait jamais, ce qui se passait avant. Mais notre époque actuelle nous montre que la guerre peut revenir. À l'époque de Gorbatchev, quelqu'un qui aurait dit que la Russie ferait la guerre à l'Ukraine, on le prendrait pour un fou. Parce que, imaginez, ma mère est ukrainienne, ma grand-mère bien-aimée est ukrainienne, mon père est biélorusse. Mais la réalité aujourd'hui est toute différente. Donc nous vivons aujourd'hui en quelque sorte dans un monde parallèle.
Qu'est-ce que les femmes apportent justement dans cette vision, dans cette perception de la guerre? Là en l'occurrence, dans cet ouvrage, la guerre n'a pas un visage de femme. Vous évoquez la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ces témoignages féminins apportent en plus? Et au fond, qu'est-ce que les hommes ne voient pas, eux, dans la guerre qu'ils mènent?
J'appartiens à une génération et à une époque quand les gens ont commencé à détester la guerre. Je ne voulais plus en parler dans les mêmes termes que c'était fait avant. C'est-à-dire que les récits des hommes de la guerre ne provoquaient plus d'émotions et d'émotions positives parmi les gens. Donc il fallait trouver quelque chose, il fallait trouver une façon de provoquer cette explosion de l'intérieur de cette culture de la guerre. De montrer que la guerre, ça peut être moche, que ce n'est pas toujours aussi beau que parfois c'est raconté par les hommes. Même s'il y a des moments peut-être sublimes dans une guerre, mais il fallait vraiment montrer ce regard différent. Et quand j'ai commencé à me tourner à travers le pays et à interroger les différentes personnes, j'interrogeais les hommes et les femmes, mais les récits des femmes étaient beaucoup plus intéressants parce qu'elles étaient émotionnellement beaucoup plus riches. C'était un autre regard, c'était une autre couleur, d'autres perceptions. Et ensuite, j'ai fait en quelque sorte le test sur mes amis en rentrant de mes voyages pour leur raconter ce que j'avais pu collecté comme récit, et j'ai remarqué que les récits de femmes faisaient beaucoup plus écho, qu'elles intéressaient beaucoup plus les gens que les récits des hommes, pour lesquels les personnes qui écoutaient restaient indifférentes, alors que les récits de femmes provoquaient parfois des larmes, même dans les yeux des hommes.
Est-ce que cela s'explique notamment par le fait que les hommes restent toujours, tout le temps fasciné par la guerre, qu'il y a une forme d'attirance des hommes pour les armes, pour le front, pour une forme de mal aussi, une espèce de fascination. Tandis que, et c'est vous qui l'expliquez, les femmes sont beaucoup plus tenues à distance de cette fascination et par conséquent, leurs témoignages sont bien plus humains que ceux des hommes lorsqu'elles évoquent le sujet de la guerre.
Non, я бы сказала, что вот европейские мужчины,
donc, ce que je dirais, c'est que parfois, les hommes européens, ils sont peut-être différents, parce que, ils peuvent aussi, parfois, être fascinés par la guerre. Mais ils n'ont pas grandi dans la même culture de la guerre que chez nous. Parce que chez nous, c'est depuis la naissance. Les gens sont baignés dans cette culture, c'est-à-dire dans les berceuses, déjà, ou dans les différents récits que les enfants entendent autour d'eux. On ne parle que de ça. Et toute l'histoire russe, c'est l'histoire du sang, c'est l'histoire de la mort, c'est le goulag, c'est les guerres. Et c'est très difficile de lutter contre ça parce que c'est une véritable mythologie, c'est un récit qui est tellement imprégné dans les cerveaux des gens que c'est impossible de lutter. Et quand mon œuvre Les cercueils de zinc est sortie, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont déposé plainte au tribunal contre moi. Et j'ai compris qu'en fait, on ne peut pas leur retirer, c'est presque un jouet qu'un enfant ne peut pas se voir retirer. C'est ce dieu Mars, il est dans leur cerveau, il est présent, ils aiment, finalement, ils aiment la guerre. Et je l'ai vu aussi en Afghanistan. J'ai vu que parfois c'est beau, et en fait, les hommes, ils aiment bien ce côté beau de la guerre. Ça se voit dans leurs uniformes, ils se plaisent dans leurs conversations très sérieuses pendant le temps de guerre. La nuit, c'est presque beau, ces spectacles où on voit des obus qui sont tirés, où on voit les projecteurs qui éclairent le ciel. Ça peut presque être beau, tandis que bien sûr, le jour, c'est beaucoup moins beau. On voit les villages dévastés, les corps écrasés par les chars, c'est répugnant. Mais je comprends qu'il peut y avoir une certaine fascination de la guerre par les hommes. Et il n'y a que la culture et l'art qui peuvent nous permettre de lutter contre cela.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, alors, justement, vous, dans la guerre? Qu'est-ce que vous trouvez, j'allais dire, presque littéraire, poétique? Qu'est-ce que vous aimez d'écrire et raconter? Qu'est-ce qui a un intérêt, selon vous, à être mis en valeur, justement, dans cette description de la guerre à travers les voix, les témoignages que vous mettez en lumière dans votre œuvre?
Je ne peux pas dire que j'aime la guerre. Mais pour parler aux gens, parce que je vais parler aux gens, donc il faut que je leur décrive la guerre de façon pour les inciter à me parler également. Donc parfois, je suis obligée aussi de dire ce qu'il y a de beau dans la guerre, mais pas vraiment beau, parce que le beau n'est pas le mot. Mais je peux vous donner un exemple. Une fois, j'ai vu une personne décédée, une personne tuée pendant la guerre. Donc j'étais au-dessus de ce corps et je regardais comment le corps se vidait de sang. Et d'abord, le sang qui coulait était rouge et après, il est devenu bleu progressivement, il est devenu jaune. Je me souviens très bien de ce moment et ensuite, je l'ai décrit dans mes livres. Comment la vie quitte lentement ce corps humain. Donc, est-ce que c'est beau? Je ne sais pas, mais en tout cas, du point de vue artistique, ça peut se décrire et ça peut faire l'objet d'une œuvre artistique. Mais il faut que ça soit un objet qui soit tourné contre la guerre. Parce que les hommes, ce restera toujours des chasseurs et ils vont peut-être garder toujours ce côté dans leur fort antérieur, mais pour les persuader, je dois aussi décrire la guerre dans son ensemble et pas seulement dénoncer les côtés horribles de la guerre. Je pense que l'art doit être exigeant, mais en même temps, on est obligé aussi dans l'art de montrer tous les côtés de cette guerre. Est-ce que c'est amoral? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il faut montrer le diable dans l'art. Et il faut tendre ce miroir au diable pour qu'il se reflète et pour qu'il se rende compte qu'il est diable. Je pense que l'art peut permettre de purifier la culture, de purifier les émotions. Et c'est ce que l'art doit faire. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Dès le matin, nous parlons de la guerre. Finalement, nous sommes aspirés dans cette guerre. Notre conscience se militarise en quelque sorte. Mais il faut que l'art lutte contre cela.
Vous dites, Svetlana Alexievitch, que les Allemands ont la musique, que les Italiens ont la peinture, mais que la culture russe, elle, est logocentrée, c'est-à-dire qu'elle est tournée, axée autour du langage, des récits. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui fait, selon vous, la force des récits russes? Pourquoi cette culture est-elle à ce point centrée sur l'oralité et la transmission des récits, notamment des récits de la guerre?
Ну, вы знаете, если мы бы стояли с вами перед картой, мы бы увидели, какая это большая страна. Даже сейчас. после 90-х лет, когда империя распалась.
En réalité, c'est très simple. Il suffit de regarder la carte géographique et vous verrez que la Russie a un territoire immense. Même depuis la chute de l'URSS, si ça a diminué, ça reste quand même un pays énorme par l'étendue de ses territoires. Et imaginez qu'il a fallu un moment conquérir toutes ces terres. Donc, c'était des tribus slaves qui se sont battues pour conquérir toutes ces terres. Si vous prenez les livres d'histoire, par exemple Karamzin, un auteur très connu qui a fait plusieurs volumes de l'histoire russe, il ne parle que de la guerre. Finalement, c'était des conquêtes. Et puis, ils ont reculé. Et puis, ils ont été massacrés. Et puis, les Russes ont été massacrés. Et les Biélorusses massacrés. Donc, tout ça, imaginez, les écoliers l'apprennent sur les bancs de l'école et ça rentre dans leur conscience. Et en plus, il faut ajouter le patriotisme. C'est un grand pays. Donc, par sa géographie et par tout le temps écoulé pendant lequel on a véhiculé ces récits sur la guerre, ça a formé les consciences des personnes russes et soviétiques.
Quelle est la place aujourd'hui de ces récits de femmes, notamment dans la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il vous semble que ces récits ont une place et une place plus grande en comparaison justement de guerres antérieures, de guerres que vous avez abordées comme la Seconde Guerre mondiale ou la guerre en Afghanistan? Est-ce que de ce point de vue-là, les choses changent? Est-ce que les récits féminins ont une place un peu plus importante aujourd'hui?
Non, в Украине очень много женщин на войне. Я даже не ожидала.
Oui, et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont parties faire la guerre en Ukraine. Je ne m'attendais même pas. Et d'ailleurs, mes livres ont beaucoup de succès en Ukraine. Je sais que tous mes livres ont été traduits en ukrainien et se vendent bien. Je sais qu'on les lit en Ukraine. Mais en même temps, je pense que les Ukrainiens et les Ukrainiennes ne sont pas si différentes du peuple d'avant que je décris, même si maintenant ils sont quand même différents, mais ils ont hérité aussi, ils portent l'héritage de l'homo soviéticus, et aujourd'hui ils luttent pour la liberté de leur pays, mais aussi la nôtre. Je pense que notre liberté à nous tous dépend de l'issue de la guerre en Ukraine, si l'Ukraine gagne ou si l'Ukraine disparaît. Mais il n'est pas possible de se sortir de la culture de la guerre très facilement et très rapidement. Et le problème est que même quand on mène une guerre juste, une guerre patriotique, c'est quand même quelque chose de très violent. Et cette violence, elle est très dangereuse parce qu'elle change les gens. Et ce qui est possible pendant une guerre, c'est de se perdre soi-même. Je me souviens très bien comment une fois, un officier qui avait combattu à la Seconde Guerre mondiale m'a dit, au partir du moment où j'ai eu une mitraillette entre mes mains, je sentis que je devenais une autre personne. Et je l'ai entendu aussi de la bouche des personnes qui ont combattu en Afghanistan. Donc, en fait, il faut que ça soit un effort fait par tous, fait par tout un pays, et peut-être par tous les pays. Imaginez le cannibalisme aujourd'hui est quelque chose d'inimaginable, elle est interdite. Il faut que la guerre soit interdite et aussi inimaginable que le cannibalisme.
Un mot, Svetlana Alexievitch, sur ce qu'on appelle en Europe le mouvement des mères. Ces mères, justement, de soldats russes qui ont été envoyés au front, qui osent résister au régime de Vladimir Poutine, qui ose élever la voix, s'exprimer publiquement, faire pression sur le régime russe. Quel regard vous portez sur ces voix qui décident de prendre, si je puis dire, la guerre à bras-le-corps et de dénoncer ce qui se passe actuellement en Russie dans ce régime autocratique?
C'est un très difficile вопрос. Матери совершенно другие были, например, когда они были против войны в Афганистане. Они действительно не хотели этой войны и были против того, что там убивают афганцев.
Vous posez une question très difficile. Les mères de l'époque de la guerre d'Afghanistan étaient différentes. Elles parlaient notamment de tous les morts dans cette guerre. Ils parlaient aussi des Afghans. Ils reconnaissaient qu'il y avait beaucoup de victimes des deux côtés. Ils parlaient de leurs fils tombés dans cette terre inconnue, dans le sable des déserts afghans. Aujourd'hui, les mères ne sont pas les mêmes. Elles sont endoctrinées par la télévision. Je me souviens d'une journaliste qui est allée interviewer dans la région de Buryatie une mère qui venait d'enterrer son fils et lui a demandé de raconter comment elle le percevait. Et la mère a dit tout simplement, mon fils est un héros. S'il n'était pas mort pour nous, les Ukrainiens seraient déjà ici, ils auraient déjà envahi notre terre de Buryatie. Donc elle ne voulait parler de rien d'autre. Et en plus, elle a dit à la journaliste, et vous savez, d'ailleurs, je ne veux pas répondre à vos questions, parce que sinon, on ne me donnera pas d'argent qui est normalement prévu pour la mort de mon fils. Je ne pourrai pas ainsi acheter un appartement pour ma fille. Donc finalement, cela montre quoi? Que Poutine a acheté tous ces gens. Il les a pervertis. Et ce sont des personnes différentes maintenant qui vivent en Russie. Je ne les connais pas, je ne les reconnais pas. Et on a tous vu ces images de mères de soldats qui se font photographier avec Poutine. Écoutez ce qu'elles disent. Elles ne parlent pas des enfants et tués en Ukraine et d'autres personnes, des horreurs de la guerre. Mais elles parlent du fait que leurs fils à la guerre n'ont pas de chaussettes chaudes, qu'elles n'ont pas été assez bien équipées, que leurs généraux ne les épargnent pas, que parfois ils les utilisent comme de la chair à canon. Mais ce sont quand même des personnes très différentes. Ces mères qui parlent à Poutine, elles lui disent qu'il est un grand homme. Et donc les seules choses, les petits reproches qu'ils ont à faire, c'est qu'il faudrait peut-être mieux équiper leurs garçons chéris quand ils vont faire la guerre. Donc cela montre qu'on peut acheter ces gens et c'est ça qui est terrifiant. Et je pense qu'on voit que le peuple a été perverti par le régime.
Vous dites souvent qu'en Biélorussie, le temps s'est arrêté au fond, que le régime soviétique est demeuré pratiquement comme il l'était dans les années 80, que la Biélorussie donc est encore peut-être le dernier territoire soviétique chimiquement pur de cet espace-là. Racontez-nous en quelques mots à quoi ressemble aujourd'hui la Biélorussie et quel rôle joue ce territoire dans la politique mise en œuvre par Vladimir Poutine pour tenter d'avancer ses pions en Europe occidentale.
Vous savez, такой белорус, которую я любила, она была несколько месяцев в 20-м году, когда была наша революция, когда народ там выходили
полумиллионные. En réalité, la Biélorussie que j'aime, c'était la Biélorussie de 2020. C'est comme ça que j'aimais mon pays. C'était l'année où on a fait notre révolution, où un demi-million de personnes sont sorties dans la rue. Les gens ne voulaient plus de la dictature. Le dictateur était là déjà depuis 30 ans et à chaque fois, il réorganisait des élections pour se faire réélire. Et si Poutine n'était pas là, on aurait gagné. Mais vous imaginez, il y avait des chars russes dans partout, tout autour, il y avait des soldats russes, soldats de Poutine. On n'aurait pas pu gagner contre eux parce que les gens qui sont sortis dans la rue étaient des gens pacifiques. Ils sont sortis avec des sourires, ils avaient des enfants dans les bras. Donc c'était des manifestations tout à fait pacifiques et romantiques en quelque sorte. C'est ce que je vous expliquais au début. C'est même étonnant qu'on a refait ce qui s'est passé dans les années 90. Nous avions ce romantisme. Et si Poutine n'avait pas soutenu Loukachenko, nous aurions pu gagner. Et Poutine a occupé mon pays, la Biélorussie, non pas comme l'Ukraine avec des armes, mais tout simplement en s'entendant avec Loukachenko. Et nous avons des chars russes, nous avons des avions qui décollent pour aller bombarder l'Ukraine, nous avons des blessés de la guerre en Ukraine dans nos hôpitaux. Donc oui, la Biélorussie participe dans cette guerre. Et je pense que Poutine voudrait reconstituer un empire, peut-être pas l'empire soviétique, mais en tout cas, dans son idée, il a l'Ukraine et la Biélorussie comme base de cet empire, et peut-être qu'après, il a des plans d'y rajouter des pays baltes, la Pologne, que sais-je. Il est difficile réellement d'imaginer ce qui se passe dans sa tête.
Des centaines de milliers de Biélorusses vivent aujourd'hui en exil en Europe de l'Ouest et un peu partout à travers le monde. Comment est-ce que vous-même vous vivez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et est-ce que vous, au fond, vous continuez de vous projeter en Biélorussie? Est-ce que vous aimeriez retourner vivre pleinement un jour en Biélorussie. Est-ce que ça vous semble possible?
Ну, я уточню. Сейчас уже есть такая цифра, что из Беларуси за эти пять лет уехало миллион.
Je voudrais préciser le chiffre. Un million de Biélorusses ont quitté le pays depuis cinq ans que dure la guerre. Et ce sont des personnes jeunes, ce sont des personnes fortes, ce sont les meilleurs qui sont partis. Et Loukachenko a affirmé les différentes organisations, les différentes initiatives civiles, le Pen Club, même des organisations comme l'organisation de la protection des oiseaux ou l'association des retraités. C'est une véritable catastrophe humanitaire parce que d'autres personnes sont venues remplacer ces personnes qui sont parties et c'est souvent des personnes mal éduquées. Je pense que sur le plan historique, c'est une véritable catastrophe. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que environ 100 000 personnes sont passées par les geôles du régime. Et pour quelques mots contre Loukachenko, on vous met en prison pour 5 à 6 ans. Et maintenant, il y a une autre technique qu'on utilise. Si vous avez participé à une marche contre le régime, même il y a 5 ans, on peut retrouver votre photo et grâce à la reconnaissance faciale, on peut vous retrouver et on peut quand même vous mettre en prison. Et la population aujourd'hui se divise en plusieurs parties. On peut dire qu'il y a des fanatiques de Loukachenko, mais il y a aussi des personnes qui sont pour la démocratie, mais qui n'osent pas parler. Et il y a des personnes qui sont entre les deux. Et je pense que nous, ce que nous faisons, c'est de lutter contre ces personnes entre deux. Et je le fais là où je suis, les gens dans le pays essayent de le faire, même si c'est très difficile aussi. Donc nous luttons pour que ces personnes entre deux deviennent des personnes pour la démocratie et qu'ils ne trahissent pas leurs enfants. Parce que ce que nous voyons, c'est que Poutine a besoin de plus de soldats pour sa guerre. Il voudrait beaucoup que l'armée biélorusse vienne de soutenir dans la guerre en Ukraine. Mais donc, nous devons lutter pour ces personnes. Et c'est difficile pour moi de ne pas me trouver dans le pays et d'être loin de tout cela. Mais je pense quand même que nous allons réussir, que nous ne vont pas pouvoir arrêter le temps et que le temps travaille pour nous.
Je voulais terminer cette discussion, Svetlana Alexievitch, par une citation que vous avez choisi de mettre en exergue au début de la fin de L'Homme Rouge. C'est une citation du philosophe Friedrich Stepun. Il écrit « En tout cas, nous ne devons pas oublier que ceux qui sont responsables du triomphe du mal dans le monde, ce ne sont pas ces exécutants aveugles, mais les esprits clairvoyants qui servent le bien. » Fin de citation. Il faut nous expliquer ce que cela veut dire. Pourquoi ceux qui servent le bien sont dans le fond peut-être celles et ceux qui font aussi progresser le mal.
Je pense que beaucoup de choses dépendent de l'élite politique, mais aussi artistique. Je pense qu'on a besoin de personnes qui arrivent à se positionner au-dessus du mal, qui ne sont pas aspirés par le mal. Nous n'avons pas assez de personnes comme cela. Parce que parfois, nous entendons des voix qui essaient de nous rassurer, qui nous disent « la victoire va venir bientôt », qui inspirent cet espoir. Mais finalement, inspirer autant d'espoir, c'est presque dangereux. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que la voie vers la liberté est une voie très longue. Et c'est ce que nous avons vécu dans les années 90. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de marches. On avait l'impression qu'on avait gagné, que la victoire était entre nos mains. Mais finalement, on voit aujourd'hui que l'homme rouge, il est toujours là. Il ne veut pas mourir. Il est au Kremlin. Il est à la guerre en Ukraine. Je pense que nous avons besoin de plus de personnes comme ça qui nous montrent que la vie peut être violente et que la voie vers une véritable liberté est une voie beaucoup plus longue.
Merci beaucoup, Svetlana Alexievitch. Et merci, Olga Mojaeva, pour cette discussion et son interprétation.